Bonjour, vous écoutez l'épisode 40 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui du regard des autres. Je suis Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité. Après avoir fait 22 ans à l'éducation nationale comme professeure des écoles en maternelle REP+, maintenant je souhaite vous aider à retrouver du temps pour vous, à savourer la vie de famille et à apaiser les émotions de chacun chez vous, les petits comme les grands. Ce sujet sur le regard des autres, vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram aussi. Vous avez aussi participé à peut-être certaines rooms sur Clubhouse où on parlait de ça. Et on avait fait une room avant les fêtes sur comment appréhender justement les avis du tonton Georges, de la voisine Colette et de la belle-mère pour voir à quel moment leurs paroles, leurs mots, leurs gestes ou leurs regards pouvaient impacter et influencer les émotions qu'on avait nous-mêmes et les avis sur notre propre parentalité qui pouvaient parfois évoluer d'un jour sur l'autre. Donc si on prend la traditionnelle crise de l'enfant au supermarché ou quand on arrive un peu en retard à la réunion de classe au collège ou qu'au travail, on essaye de dire qu'on doit sortir plus tôt parce que le petit dernier est malade, à chaque fois, on croit voir en fait des jugements qui semblent un peu déclencher nos flammes, qui semblent un peu nous mettre soit en colère, soit nous rendre un peu tristes, soit nous faire un peu honte. Donc déclencher un peu notre cheminée des émotions, comme je vous présente dans l'épisode 9. Alors que finalement, ces mots, ces regards sont parfois des étincelles, certes, qui enflamment nos doutes, qui répercutent un peu nos peurs intérieures, mais ils sont parfois imaginaires, en fait, ces regards. Ils sont parfois imaginaires dans le sens où ce sont des choses qu'on croit, ce sont des choses qu'on croit voir, peut-être qu'ils ne sont pas complètement réels, peut-être que ce sont plus des impressions ou des projections, un peu avec notre filtre de pensée de la réalité. On croit que notre patron a froncé les sourcils en ce moment-là. On croit que la voisine désapprouve qu'on soit encore en train d'allaiter notre petit qui a 2 ans. Donc, parfois, ce sont des impressions. Et puis, parfois, c'est peut-être réel. Donc, la première chose sur ce thème-là du regard des autres, je vais vous proposer de vous demander, est-ce que l'autre a vraiment dit ça verbalement? Est-ce qu'on l'a entendu? Ou est-ce qu'il l'a vraiment pensé? Est-ce qu'il a vraiment pensé ce que je crois qu'il a pensé? Et si jamais il l'avait vraiment dit, ou si on était sûr, absolument sûr, d'avoir vu sur son visage, à ce moment précis de l'action, un froncement de sourcils ou une grimace, encore faudrait-il supposer que ce soit en lien avec ce qu'on venait de dire nous, ou ce qu'on venait de poser comme mot, comme geste ou comme action? Donc, vous connaissez peut-être les accords Toltec qui disent « on ne fait pas de suppositions ». Donc, à ce moment-là, on peut éventuellement demander à tonton Georges ou à la voisine Colette ou à notre patron si son attitude, si son comportement, si son haussement d'épaule ou si son « pfff » voulait dire quelque chose en rapport avec nous ou pas. Donc, si vraiment l'autre a exprimé de façon cohérente et audible quelque chose de désaccord avec notre comportement, on pourrait utiliser cette phrase-là qu'il a dite ou ce geste-là qu'il a fait comme base de réflexion sur mes propres valeurs, sur mes propres ressentis, sur ma vision de la vie, sur mes objectifs, soit professionnels, soit personnels, et trouver en quoi sa réaction, donc la réaction de l'autre, appuie sur mon propre besoin et sur mes propres rayures d'arc-en-ciel des besoins. Est-ce qu'à ce moment-là, quand je l'ai vu hausser les épaules ou quand j'ai entendu sa phrase de désapprobation, est-ce qu'à ce moment-là, ça a un petit peu gratté mon besoin d'être soutenue, ou peut-être mon besoin d'être comprise, ou peut-être mon besoin d'être validée, ou peut-être qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment envie de rajouter la phrase de quelqu'un d'autre parce que dans ma tête, il y avait déjà des to-do list à rallonge. Donc de voir en quoi l'autre, à ce moment-là, a appuyé sur un de nos déclencheurs, sur une de nos braises dans notre cheminée, qui elle-même était liée à un besoin qu'on n'avait pas réussi à mettre en place nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on avait besoin d'être soutenu ou d'être comprise ou d'être validée, on a peut-être cru que cette personne-là était en capacité de nous l'amener. On a peut-être cru que cette personne-là, que ce soit notre mère, notre enfant, notre voisine, notre amie, on a peut-être cru qu'à ce moment-là, elle allait nous soutenir ou nous comprendre ou nous valider. Mais en fait, on n'a peut-être pas besoin de chercher ça chez l'autre. On peut peut-être, dans un premier temps, essayer de nous le donner à nous. Donc, de nous créer cette instance de soutien, de compréhension, de validation. Hein, si vous avez écouté la rayure 31, la rayure des besoins de relation, je vous alertais sur cette rayure parce que souvent on attend des autres qu'ils nourrissent ces besoins-là, puisque comme ce sont des besoins de relation, on leur fait porter un peu la responsabilité de nourrir ces besoins-là. Donc on va peut-être pouvoir explorer quand on ressent une gêne face au comportement de l'autre, même si c'est un inconnu, hein, parce que quand c'est votre enfant qui fait une crise par terre, bah, autour de vous, c'est peut-être des gens que vous n'avez jamais vus, mais vous ressentez le regard des gens comme un jugement, parce qu'à ce moment-là, peut-être que vous voudriez de l'aide ou du soutien. Donc, je vous invite à vous donner à vous-même le soutien et l'aide dont vous avez besoin. Alors, comment on fait ça? Parce que là, je vous entends réfléchir en disant, oui, elle est bien gentille, ça on le sait, mais comment on fait? Alors, je vous donne deux outils pour réussir à vous donner du soutien ou vous donner de l'écoute ou de l'empathie au moment où vous en avez le plus besoin. Donc, ces deux outils, vous pouvez vous en servir soit dans l'instant présent, soit en anticipant pour la prochaine fois quand ça va se reproduire, un peu comme on disait dans l'épisode 38 sur les colères des enfants. Vous pouvez aussi désamorcer en amont des choses en mettant en place des tequils. Donc le tequil épisode 8 nourrit un peu tous les besoins que vous avez en instance de clignotage. Donc vous faites un petit scan de votre arc-en-ciel des besoins, vous voyez ce qui commence à clignoter, les besoins qui ont besoin d'être nourris. Et ces besoins-là, vous pouvez essayer de les nourrir avant, pendant et après, en vous imprégnant de ce qui vous fait le plus de bien comme stratégie. Si on reprend l'exemple de l'aide ou de l'écoute, quand votre enfant se roule par terre à la caisse du supermarché, ce qui pourrait vous aider à ce moment-là, c'est de vous dire « J'ai déjà traversé ces crises-là, je sais qu'à la fin, on va pouvoir sortir du magasin la tête haute, je vais y arriver, je vais me calmer d'abord pour pouvoir lui apporter mon aide après. » Donc en fait, vous allez faire le travail intérieur que vous aimeriez trouver avec ces personnes-là. Vous allez imaginer que les personnes qui vous jugent, et encore, hein, ça c'est vous qui dites qu'elles vous jugent, parce qu'on n'est pas sûr qu'elles vous jugent, peut-être que juste elles ont un peu d'empathie, mais elles ne savent pas comment vous le dire, ou elles n'osent pas agir parce qu'elles pensent que vous allez refuser leur aide. Et parfois, on interprète des actions ou des regards de façon erronée. Donc si à ce moment-là d'une crise de votre enfant, vraiment vous vous sentez seul et vous avez besoin de soutien ou de partage ou d'écoute ou d'aide, je vous invite à faire ce que vous aimeriez qu'un inconnu ou que la personne en face de vous fasse. Pour vous, d'être votre propre outil. Donc ça c'est un scan à pratiquer régulièrement parce que sinon on a du mal à voir tout de suite de quoi on a besoin. Et puis le deuxième outil, pour vous apporter un peu d'équilibre et de sérénité au moment présent, c'est de reformuler en version positive le comportement de l'enfant. Donc le premier outil, c'était plutôt agir sur mon émotion, sur ma cheminée des émotions, hein, pour aller un peu plus loin que dans l'épisode 38. Et le deuxième outil, ça va être une reformulation positive pour accepter le comportement actuel, mais de l'enfant. Donc la reformulation positive, qu'on travaillera bien sûr hein, dans le programme en ligne sur l'accompagnement à la parentalité, c'est de se dire « mon enfant se roule par terre » et de continuer cette affirmation en trouvant sur son propre arc-en-ciel de besoin ce qui l'a amené dans cette émotion-là, dans cette flamme-là. Donc « mon enfant se roule par terre, je sais qu'il a besoin de plus de confiance » ou je sais qu'il a faim et qu'il a envie de manger, ou je lui ai dit non tout à l'heure, ça l'a frustré et je le comprends. Donc vous voyez, vous déroulez le fait que cette action de votre enfant, qui vous met déjà mal à l'aise et qui en plus est sous le regard des autres, ne va pas se résoudre en un claquement de doigts. Par contre, il évitera, cet outil, que vous-même vous déclenchiez une colère à votre tour. Que vous-même vous preniez le geste de votre enfant, que vous l'appeliez bêtise ou caprice ou crise ou colère, quel que soit le terme que vous allez mettre dessus, ça pourrait déclencher votre propre colère, comme on disait dans l'épisode 38, et que les deux cheminées soient tellement contaminées l'une l'autre que le regard des autres devient encore plus difficile à affronter. Alors que là, si je prends de la distance en disant « mon enfant se roule par terre et j'aurai les moyens de l'apaiser parce que moi je ne suis pas en colère » ou « mon enfant se roule par terre et je comprends qu'il ait été frustré parce que j'ai dit non, on n'achètera pas de bonbons », cette reformulation positive, cette manière de voir la situation avec détachement n'est pas facile à mettre en place, mais va vous aider à accepter que l'autre en face ne soit peut-être pas dans la même configuration que vous, dans le même état d'esprit que vous. Et finalement, pourquoi ça nous touche tant de voir que les autres nous regardent, nous jugent, nous critiquent? C'est peut-être qu'à ce moment-là, on commençait à rentrer dans une émotion qui ravivait peut-être une blessure d'attachement, une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure qui n'était pas complètement cicatrisée. Et ça, on le verra dans l'outil qui s'appelle le bocal à deuil, hein, où on va travailler nos braises et les choses qui nous viennent de loin. Et une des façons d'y répondre en direct, c'est de travailler vraiment sur ce que je veux, ce que j'attends, quelles sont mes valeurs, quels sont mes objectifs, et de faire une grande clarté sur mes intentions à ce moment-là. Est-ce que mon intention à ce moment-là, c'est de comprendre mon enfant? Ou est-ce que mon intention à ce moment-là, c'est de disparaître du jugement que je crois que les autres ont sur moi? Est-ce que mon intention, c'est de ne plus faire de bruit et que mon enfant se taise? Ou est-ce que mon intention, c'est de l'accompagner lui-même dans sa vision de la flamme et de lui permettre d'avoir des clés pour plus tard? Et vous voyez, dans une ou dans l'autre des situations, ben finalement, le regard des autres, on n'en a plus rien à faire. Parce que quand on remet au centre de notre intention et de notre projet l'accompagnement de notre enfant ou nos objectifs de parents sur le long terme, à ce moment-là, on se coupe de l'avis, du regard, de la critique des autres. Quand on est complètement dans notre rayure jaune, quand on est complètement au clair sur l'intégrité de ce qu'on veut transmettre à notre enfant, on arrive à savoir si on veut être heureuse avec notre enfant dans une démarche de progression. Hein. Il ne s'agit pas qu'il soit parfait tout de suite, on l'a vu dans l'épisode 37 du pas encore, mais de se dire j'accepte qu'aujourd'hui c'est un jour où ça va être moins facile que d'habitude, mais je ne vais pas chercher à plaire aux gens qui nous regardent, je ne vais pas chercher à les convaincre non plus ou à me justifier. Je vais juste être droite dans mes bottes en me disant, voilà, chaque jour, ce sont des éléments qu'on va prendre comme des perles sur un collier. Et voilà, des fois, il y a des perles plus petites, des fois, il y a des perles plus grosses, des fois, il y a des perles noires, des fois, il y a des perles qui brillent. Là, aujourd'hui, la crise de mon enfant, son caprice, entre guillemets, sa bêtise, entre guillemets, je traduis avec les mots que j'entendais le plus souvent à l'école, mais je ferai un épisode là-dessus en disant qu'il n'y a pas de caprice et qu'il n'y a pas de bêtise, hein, que ce ne sont que des vécus et des expériences de l'enfant. À ce moment-là, si moi, je le traduis par « mon enfant est en flamme, hein, il a un feu de cheminée à accueillir, et je me mets à sa hauteur et je l'accompagne lui en faisant complètement abstraction de la belle-mère qui me critique », de ma sœur qui ne voit pas les choses comme moi, de la caissière qui veut qu'on aille plus vite, je me coupe de ce que les gens pensent et je fais ce qui est le mieux pour mon enfant. Je fais ce qui est le mieux pour moi en tant que maman, après en tant que femme et éventuellement ensuite, Si vraiment j'ai du temps, mais rarement on a du temps hein, quand on est en situation de crise, après je m'occuperai de l'image que je donne de moi aux autres. Mais bien souvent, et ça m'est arrivé à Auchan une fois avec la petite Tiana, qui a fait une colère internationale parce qu'elle voulait une casquette Reine des Neiges, et que je lui ai dit non, on est venu pour acheter des culottes, on achète des culottes, et on n'est pas venu pour acheter une casquette, on n'achètera pas de casquette. Je lui ai répété plusieurs fois, je me suis fait une bonne reformulation positive en disant « même si elle fait une colère, je ne céderai pas, puisque mes principes, c'est je tiens ce que je lui dis et je ne déborde pas de mon intention initiale. Elle n'a pas besoin d'une casquette, elle a déjà des casquettes. On est venu pour acheter des culottes, on s'en tient à ce qu'on a dit du programme. Ma valeur de parole est plus importante qu'un désir éphémère de casquette. » Donc les gens autour de nous ont commencé à voir Siana en vrac, en train de crier, de se rouler par terre. Je ne vous cache pas qu'en plus c'est des grands Auchan, hein, c'est le Auchan de la Défense où il y a à peu près 28 caisses et donc une centaine de personnes autour de nous. Et voilà, je suis restée droite à regarder Siana, à lui dire « Je comprends ma chérie, tu es très en colère, tu voulais cette casquette, maman n'achètera pas cette casquette, même si tu pleures, je ne l'achèterai pas. » Est-ce que tu veux venir faire un câlin? Est-ce qu'on peut partir? Et donc, on est resté une vingtaine de minutes au milieu du Auchan et au milieu des gens qui venaient voir Siana, qui se mettaient à sa hauteur en disant « Non, 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 oh là là, tu n'es pas contente hein !» Et donc, je laissais faire, puisque ça, ce n'est pas sous mon contrôle de faire accélérer la flamme de mon enfant ou de faire sous la contrainte, sortir mon enfant du magasin. Le lieu importait peu à ce moment-là. L'essentiel pour moi, c'est qu'elle soit en sécurité et qu'elle comprenne que déjà sa colère, je l'entendais et que je la comprenais, mais que je n'allais pas céder à cette colère parce que son besoin de casquette n'était pas vital et n'était pas un enjeu qui correspondait à mes valeurs d'éducation. Je ne cède pas à une envie qui n'est pas vital. Donc cette illustration, vous la remplacez par ce que vous vivez à la maison, hein. C'était vraiment pour illustrer mon propos parce que moi aussi, bien entendu, je suis confrontée, même après 20 ans d'éducation en maternelle, à ce genre de situation régulièrement, peut-être moins qu'avant parce que j'ai plus d'outils, hein. Et donc je vous transmets mes outils avec vraiment toute humilité parce que je suis encore en train de les travailler, mais à la fois de comprendre ce qui se joue en moi dans ma cheminée des émotions pour ne pas me mettre en colère et à la fois de faire une reformulation positive concernant mon enfant et concernant ce que je vois de la situation m'a permis à ce moment-là, moi, de faire complètement abstraction du regard des autres et même les deux caissières qui ont commencé à s'inquiéter que cet enfant soit seul au milieu du magasin, j'ai réussi à sourire et à leur dire « Je suis là, madame, je suis là, la maman est là, ne vous inquiétez pas. » Parce qu'elles-mêmes, en fait, étaient en train de déclencher une flamme avec leur perception à elles. Et elles étaient finalement très humaines, hein, ces deux caissières. Elles se sont inquiétées, elles sont venues voir mon enfant qui faisait une crise et tout. Donc je les comprends, mais je ne me suis pas laissée contaminer par cette réaction extérieure à moi, non seulement parce que je savais où j'allais dans ma tête, je savais où en était ma cheminée des émotions à moi, et je comprenais le comportement de mon enfant sans avoir à monter en crispation, en frustration, ou, comme vous le voyez sûrement bien souvent dans les rayons, finir par attraper l'enfant, lui en coller une et lui dire « c'est moi qui commande ». Il n'était pas question à ce moment-là de faire ni une pression verbale, ni une pression physique, ni une pression temporelle sur la crise émotionnelle que traversait Siana. Et je sais que c'est difficile à entendre parce que peut-être qu'on a été élevé comme ça et peut-être qu'on ne sait pas encore faire autrement. Mais voilà, je vais vous accompagner à faire ça avec chacun des volcans et des feux de cheminée de vos enfants. Et ces outils-là, je les pratique maintenant au quotidien depuis 5 ans. Et maintenant, je peux vous les transmettre parce que je sais qu'ils fonctionnent à la fois dans la classe et à la fois à la maison. Donc, prenons soin de notre cheminée des émotions, prenons soin de comprendre le comportement factuel de notre enfant. Et si ça nous touche encore de voir des gens qui critiquent, qui commentent, allons chercher un peu plus loin en nous la petite braise de doute qui nous demande si on est vraiment capable, si on est vraiment légitime, si on est au point sur ce qu'on veut ou si nous-mêmes on n'est pas en train de reproduire un schéma qui finalement n'est pas aligné avec ce qu'on veut. Et dans ce cas-là, puisque nous-mêmes on est en instabilité sur ce qu'on attend de notre vie de parent ou de notre vie de professionnel ou de notre vie de couple, ben, le flou et le doute nous empêchent finalement d'être au clair aussi sur notre cheminée des émotions. Parce que comme on ne sait pas où on veut conduire le bateau, à un moment, on ne sait pas non plus comment y arriver puisqu'on ne sait pas où on veut aller. Donc le premier outil, c'est de vraiment travailler notre rayure jaune en sachant dans quel mode de parentalité je veux aller, avec quels outils, avec quels moyens, comment je peux réagir, comment je peux anticiper et comment je peux mieux comprendre mon enfant. Et avec cette rayure jaune, ensuite, quand la situation va se présenter, je saurai mettre en place des outils d'urgence. Donc il y en a encore que je ne vous ai pas présenté, hein. Il y a la tresse notamment. Donc la tresse, c'est un outil pour les situations d'urgence dont je vous reparlerai ou dans le programme ou sur une room clubhouse. Et de se dire, selon mes références, selon mes besoins, je scanne ce qu'il lui faut. Qu'est-ce qu'il lui faut à mon enfant dans cette situation-là? Est-ce que je peux lui apporter tout de suite? Ou alors, est-ce que son émotion est déjà tellement forte que j'applique le protocole qu'on a vu dans l'épisode 38 sur la colère? Et qu'après, quand la colère et la flamme sera redescendue, je pourrai lui reparler de la façon de nourrir ses besoins-là, de la façon d'installer un tequila avec lui, ou de lui à lui, même s'il est assez grand. Si vous avez un enfant de 7 ans, vous pouvez déjà lui enseigner la manière de prendre soin de ses propres besoins de façon autonome, et de vous dire, quand j'utilise une méthode pour moi redescendre en émotion, et que je donne les clés à mon enfant pour qu'il accueille lui aussi ses émotions et qu'il soit indépendant dans cette procédure-là, dans cette méthodologie-là, je suis à la fois un modèle pour lui et je suis à la fois un soutien pour lui qui, s'il aura besoin d'aide, reviendra vers moi. Et ça, c'est tellement précieux. Je vous avais partagé une des images qui était utilisée dans le livre de Anne Reynaud sur la sécurité émotionnelle de l'enfant, qui utilise beaucoup l'image du porte-avions. Si notre petit avion, notre enfant, on le soigne, on le bichonne, on lui donne du carburant, on lui explique comment faire et tout. Quand il aura besoin, il reviendra avec sérénité, avec sécurité à la base. Et s'il n'a pas besoin, il saura voler de ses propres ailes. Et c'est vrai que cette image, elle est assez parlante pour les parents. Hein. Je la donne de temps en temps aussi aux mamans que j'accompagne. Parce que notre avion, notre enfant, il n'est pas fait pour rester sur la terre ferme. Il est fait aussi pour faire ses propres expériences en dehors de nous. Et ce qu'on peut lui apporter, c'est vraiment une autonomie dans sa rayure verte d'exploration, de découverte. Hein, je vous renvoie vers l'épisode 23 où on disait faire ses propres choix, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, que l'enfant se sente suffisamment puissant dans sa rayure jaune et suffisamment indépendant et libre dans sa rayure verte pour qu'il ait confiance en lui, pour qu'il ait une estime de lui, qui lui permette de faire des choix et des expériences, et que s'il a besoin, il pourra revenir vers nous, avec la rayure orange peut-être, hein, s'il a besoin d'aide, de soutien, d'écoute, d'empathie, et qu'on sera disponible à ce moment-là pour incarner le socle et le porte-avions nécessaire. Mais si nous-mêmes on est perturbés par notre doute, notre flou, notre incertitude ou nos cheminées et nos flammes d'émotion, pour l'enfant, ce sera difficile de venir vers quelqu'un en qui il sent une certaine instabilité, une certaine peut-être rivalité ou parfois même une certaine hostilité. Hein, ce sont aussi les quatre figures d'attachement dont je vous parlais dans l'épisode sur la séparation et sur l'attachement. C'est difficile pour un enfant de savoir qui sont les figures autour de lui qui sont suffisamment stables pour aller se confier, pour aller demander de l'aide et tout ça. Donc on peut trouver que c'est pas utile de voir ça quand l'enfant est tout petit, mais finalement ça aide déjà pour plus tard, quand il aura une période d'adolescence, quand il aura une période professionnelle difficile, il saura vers qui se tourner, il saura vers qui demander de l'aide et il aura un attachement sécure. Donc ça, je vous en ai parlé aussi dans un épisode et je pense que j'en referai un autre pour compléter. Mais toutes ces notions-là peuvent être déjà en germe quand vous appréhendez la crise de l'enfant et aussi le regard de l'autre. On se détache beaucoup du regard de l'autre quand nous-mêmes, on sait où on va. Et j'ai envie de finir cet épisode par un tout petit point aussi de formulation sur les gens qui nous critiquent ou qui nous jugent ou qui nous font des remarques désobligeantes. Je vous en avais parlé un peu sur la communication non violente en épisode 27, que les gens qui nous critiquent, les gens qui argumentent comme ça, ce sont leurs avis. Ce sont leurs visions, ce ne sont pas des injonctions, ce ne sont pas des ordres. Ils n'ont pas de pouvoir sur nous, hein. Ils n'ont le pouvoir que celui qu'on leur donne finalement, comme soumission ou comme consentement. Mais à tout moment, ces gens-là, on peut prendre une liberté avec eux, on peut se désolidariser d'eux, on peut couper et poser des limites avec leurs actes et leurs gestes et leurs paroles, pour se resserrer dans notre bulle, dans notre cocon, dans notre sécurité intérieure, peut-être familiale, peut-être personnelle même parfois, en posant des limites, en mettant des stops et en ne nous laissant pas impacter finalement par les personnes extérieures qui ne seraient pas dans nos visions de la parentalité, dans nos visions de la vie et tout ça. Maintenant, si on aime débattre, si on aime convaincre, si on aime argumenter, pourquoi pas ? Mais rien ne nous oblige à surenchérir quand quelqu'un nous fait une remarque. Finalement, la manière dont l'autre peut nous attaquer, ce serait presque lancer une étincelle dans notre feu de cheminée pour déclencher une flamme. Donc à nous de voir si on veut couper la flamme tout de suite ou si on veut embrayer au risque qu'il continue à nous balancer encore et encore des allumettes et auquel cas le feu risque d'être encore plus compliqué ensuite. Donc toutes ces pistes-là, je vais vous laisser les appliquer à une situation peut-être que vous avez vécue récemment, ou peut-être ce qui va arriver demain, après l'écoute de cet épisode, et vous pourrez explorer par quel outil vous voulez agir. Est-ce que vous allez vous centrer sur vous d'abord, sur vos besoins, ou alors sur vous, sur vos émotions, ou alors sur vous, sur vos braises et les deuils qui sont encore à faire dans vos blessures à vous, ou alors si vous allez observer l'enfant avec vraiment recul et distance en reformulation positive de son propre arc-en-ciel de besoins et de sa propre cheminée des émotions à lui, à votre enfant, ou alors si vous allez mettre une barrière à ces gens que vous croyez hostiles, que vous croyez qui vous critiquent, et de vous dire finalement je reprends le contrôle de ma propre trajectoire et ce que les gens me disent autour de moi n'affecte pas ma vision, ou si jamais elle affectait ma vision, je pourrais poser des limites, faire d'autres choix, partir ou dire stop ou couper des liens qui sont peut-être toxiques. Et tout ça, ce sont des possibilités et vous voyez qu'on a fait un éventail de stratégies très très large pour compléter un peu notre vision du regard de l'autre. Et si c'est un autre qui comptait pour nous, ça peut être plus difficile. Je pense notamment à l'ancien, aux coparents ou aux conjoints ou à nos parents ou à nos enfants. Quand nos enfants nous envoient une phrase du genre « t'es méchante, je t'aime plus », je sais que certaines mamans à l'école étaient complètement démunies quand leur enfant disait qu'il ne les aimait plus. Elles le prenaient personnellement. Elles étaient affectées par cette phrase. Parce que pour elles, ça résonnait avec une braise dans leur cheminée des émotions qui était insupportable. Donc dans ces cas-là, je vous invite vraiment à creuser en comment ça réagit avec vous, ce que ça provoque cette phrase d'une personne qu'on aime, d'une personne qui nous est chère, parce que ça révèle bien souvent une blessure à apaiser, une blessure à apprivoiser, peut-être à traverser, avec un professionnel, avec un accompagnant formé à ces techniques-là, peut-être un thérapeute, peut-être un psychologue. Mais ce n'est pas anodin si l'avis des autres a un tel impact sur notre propre présent. Il y a peut-être des choses à creuser et tout ça. Et avant de vous quitter, je vais vous raconter une petite histoire qui m'avait beaucoup plu, que j'avais lue sur les réseaux sociaux, qui parlait d'une petite grenouille qui décidait d'aller faire une course très réputée dans son pays où il y avait beaucoup, beaucoup de concurrents. Et cette course était réputée très difficile parce qu'il y avait des montagnes à gravir, il y avait des ruisseaux à traverser, il y avait des pierres et tout. Donc il y avait plusieurs obstacles compliqués. Et donc tout au long du chemin, il y a des gens qui criaient sur le parcours des grenouilles et leur disaient « Oh là là, tu n'y arriveras pas, c'est trop dur, mais c'est... Non, tu es trop faible, tu t'es pas assez entraînée, en plus tu as les jambes trop petites, et puis non, t'as... » Bref, tous les gens qui critiquaient autour d'elle, et puis il y avait de moins en moins de grenouilles sur tout au long de l'épreuve, hein, qui était une sorte quand même d'endurance, et à la fin, cette petite grenouille gagne la course, gagne la compétition, malgré tout ce qu'elle a entendu sur son chemin et sur cette course. Et à la fin, la personne qui lui remet le prix, donc la coupe ou la médaille, je ne sais plus exactement, lui dit, dans cette fable, lui demande comment elle a fait pour réussir alors que personne ne croyait en elle, que personne n'avait gagné cette course aussi rapidement, que personne ceci. Et au moment où il lui demande tout ça, la grenouille le regarde, et ne répond pas en fait, parce que tout simplement cette grenouille était sourde. Cette grenouille avait fermé l'accès à tous les avis extérieurs des autres. Cette grenouille était concentrée sur son objectif. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette fable, parce qu'elle montre qu'on laisse en fait les phrases, les avis, les regards des autres couler parfois notre propre confiance en nous. Et quand on arrivera plus rapidement ou plus souvent à fermer nos oreilles à l'avis de tout le monde, surtout quand ce sont des personnes qui ne sont pas bienveillantes, des personnes qui ne sont pas dans notre cercle proche ou des personnes qui n'ont pas les mêmes intentions ou les mêmes ambitions que nous ou les mêmes valeurs, on ira peut-être plus loin parce qu'on gardera cette vibration et cette énergie pour les projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et on sera tellement focus en fait sur notre objectif et notre domaine qu'on fera comme cette petite grenouille qui arrive au bout du marathon, qui arrive au bout de son endurance parce qu'elle a bloqué tout ce qui était négatif autour d'elle et qu'elle était focus. Voilà, je vous laisse avec cette petite fable qui m'a beaucoup touchée. Si vous voulez aller plus loin sur tous les outils que je vous ai donnés dans cet épisode, rajoutez-moi sur Instagram ou sur Clubhouse. Et puis, si vous voulez participer au programme qui s'ouvrira prochainement d'accompagnement en ligne, où on reverra tous ces outils-là et tous ceux que vous avez déjà vus dans les carousels Instagram, n'hésitez pas à me contacter. Ce podcast est disponible sur plusieurs plateformes si vous en avez l'envie et le temps. Merci de laisser un petit message et une note pour qu'il soit de plus en plus visible auprès des autres parents autour de vous ou partagez-le à vos meilleures amies si elles sont mamans ou si elles vont devenir mamans. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.